Nous sommes en train de continuer la petite étude dans l'Épître de Jacques. Ça fait un moment qu'on n'a pas touché à ce sujet-là. Mais c'est pas grave. Les versets sont encore là. Bon, on va y passer un par un comme le Seigneur nous les donnera. On grandit, puis si on n'entend pas parler pendant un bout de temps, mais c'est parce qu'il faut les mettre en pratique. Jacques a plein de choses pratiques, très pratiques. C'est pour ça que le Seigneur m'a guidé à amener ce tiri-là, parce que quand tu vas accueillir des gens, il faut que tu les reçoives dans l'état où ils sont. Puis le sujet qu'on est en train de voir, justement, c'est quand il arrive un pauvre, comment qu'on considère le pauvre qui rentre. Souvent, nous-mêmes, on fait partie de ceux qui sont... On est tous du monde bien ordinaire, on n'a pas d'argent, puis on est habitué à ce contexte-là, mais... C'est sûr que c'est pas tout le monde qui sont habitués au contexte d'accueillir les pauvres, puis d'accueillir des gens qui sont des fois tout maganés par la vie. Ils ont eu des moments difficiles, puis ils ont besoin d'être entourés. Puis il faut que tu les reçoives comme qu'ils sont. Ils veulent apprendre à connaître Jésus. Ils n'ont pas besoin de se faire juger, critiquer, rabaisser. Parce que dans cette histoire-là qu'on est en train de voir, ça c'est la suite du bout que je vous ai lu la dernière fois, puis l'autre fois d'avant. Quand il dit, si un pauvre qui rentre dans la maison, puis tu lui dis, prends la place à terre ici, puis tu vois un riche qui rentre, prends la belle chaise qu'il y a là. Là, il dit, tu fais des exceptions de personnes, puis c'est grave dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on va voir ce soir, la suite de cette idée-là, dans Jacques chapitre 2, les versets 8 à 13. Jacques, il compare ce sujet-là avec les commandements du Seigneur. Puis vous allez comprendre que c'est que ça a rapport avec les commandements du Seigneur. Les chrétiens doivent-ils être des observateurs de tous les commandements?
Oui.
Oui, bien sûr, parce que les commandements, c'est quand même Dieu qui les a donnés, puis ils demeurent éternellement. Quand Jésus a dit, je suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Puis un autre passage qui dit que la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pas juste le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament aussi. Puis les 10 commandements qui ont été donnés, c'était comme des bases solides d'un mode de vie. C'est comme des critères de mode de vie que Dieu s'attend à ce qu'on fasse pour lui faire plaisir. Nous, dans l'Ancien Testament, ils devaient pratiquer les commandements dans le but de gagner leur salut. Tandis que nous, on ne gagne pas notre salut en pratiquant les 10 commandements. On est sauvé par la foi en Jésus. Sauf que le fait de demeurer dans les commandements, on démontre à Dieu qu'on l'aime. Puis on démontre à Dieu qu'on a de la foi en lui. Comment un chrétien peut-il désobéir aux 10 commandements du Seigneur? On va voir qu'il y a une manière qu'on peut désobéir à l'ensemble des 10 commandements. J'allais dire, comment ça? Comment est-ce que je peux faire une action dans ma vie qui va faire que je désobéis aux 10 commandements en même temps? Ah ouais, il y en a un qui se lance.
En les pratiquant
pas. Oui, en les pratiquant pas, mais on va voir que dans le sujet qu'on va voir ce soir par Jacques, il y a une seule affaire que, mettons, si tu pratiques, si tu fais pas cette affaire-là ou si tu as fait cette affaire-là, va faire que tu l'appliques les 10 commandements ou tu es transgresseur des 10 commandements. Dans une seule chose qu'on fait pas. Puis vous allez comprendre son raisonnement. Comment un pardon?
D'aimer le Seigneur,
c'est ça. Ça, c'en est un qui fait partie des commandements. Puis on va le voir, là. Comment un chrétien doit-il démontrer l'amour de Dieu? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On aime Dieu, puis l'amour de Dieu qui est en nous nous amène à aimer notre prochain. C'est ça qui est de mettre en pratique l'amour de Dieu. Puis là, on va regarder les sujets qu'on veut méditer ce soir dans Jacques chapitre 2, les versets 8 à 13. Puis la question qu'on se pose, est-ce grave pour un chrétien de transgresser les commandements de Dieu? Oui, c'est grave. Un chrétien doit mettre en pratique pour démontrer sa foi. Dans Jacques 2, 8, ça nous dit, « Si vous accomplissez la loi royale... » Là, il nous parle d'une loi royale. Peut-être que vous ne comprenez pas tous les termes, mais on va revenir et on va en parler. « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Or, si tu commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ça, c'est un passage qu'on retrouve dans Jacques tout de suite après le passage qui nous parlait qu'un pauvre rentre, puis tu dis au pauvre, assieds-toi à terre, puis tu dis à un riche de s'asseoir sur une belle chaise confortable. Il dit qu'on avait fait une distinction entre les personnes, entre les pauvres et les riches, puis ça, c'est une distinction faite par des pensées mauvaises. Puis Jacques va aller plus loin dans son raisonnement, en nous expliquant ça. Il nous parle qu'il y a une loi royale. C'est quoi la loi royale? Comme la loi principale, ou dans d'autres mots, le résumé des lois de Dieu, des commandements de Dieu. Jésus en a parlé, Jacques en a parlé, puis Paul en a parlé aussi, mais dans différents passages. La loi royale a déjà été expliquée par Jésus. Là, si on lit le passage dans Jacques 2:8, il dit « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça, c'est ça la loi royale, d'aimer ton prochain comme toi-même. Jésus a enseigné aux disciples les deux plus grands commandements, puis il dit « De ces deux commandements dépendent toute la loi. » Deux commandements qui résument tous les 10 commandements. Jésus les a appelés les deux plus grands commandements. Puis c'est à quoi? Y en a-tu qui le savent par cœur? Exact. Dans Matthieu, on va aller le lire, dans Matthieu chapitre 12, le verset 28 à 31, un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Là, Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Puis là, au verset 31, il dit, « Voici le second. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ceux-là. Là, Jacques nous dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas parlé d'aimer Dieu, parce que normalement, les chrétiens aiment déjà Dieu. Mais l'autre partie de la loi royale, c'est d'aimer notre prochain. C'est celle-là qui est le plus dur à mettre en pratique. Puis là, il dit ça tout de suite après avoir expliqué qu'on ne doit pas faire de distinction entre les riches et les pauvres. Parce que là, tu es en train d'enfreindre la loi. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Fait que le riche, tu es prêt à le traiter comme toi-même. Tu veux le laisser sur une belle chaise. Mais le pauvre, lui-ci, faut que tu le traites comme toi-même. Puis si tu le traites comme toi-même, tu vas y donner une belle chaise là, avec. L'idée est de ne pas faire d'exception. Puis juste sur ce point-là, mais avant d'aller dans cette idée-là, je vais continuer. Paul il a aussi expliqué que plusieurs des commandements étaient résumés en « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si on voit ça dans Romains 13, le verset 9. Puis le Paul est en train d'expliquer. En effet, les commandements, tu commettras point d'adultère, tu tueras point, tu déroberas point, tu convoiteras point, et ceux qui peut y avoir encore se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fait que Jacques en parle, Jésus en a parlé, Paul en a parlé, on voit que Ça fait partie de la base de la vie chrétienne. Les commandements n'ont pas été retirés. Il dit, en résumé, ça se résume, aime Dieu, puis aime ton prochain. Aimer notre prochain, là, c'est, si tu l'aimes ton prochain, tu lui mentiras pas. Si tu aimes ton prochain, tu le voleras pas. Si tu aimes ton prochain, tu convoiteras pas ses biens. Si tu aimes ton prochain, tu y feras pas de mal. C'est ça qui est le but. Tu l'aimes. Fait que l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain, c'est le but de la vie chrétienne. Aimer. Dieu veut qu'on aime. Puis quand une personne marche dans l'amour du Seigneur, puis que tu es automatiquement porté, si tu fais attention, parce que c'est sûr que tu peux être chrétien pendant un bout dans ta vie et garder de l'amertume, du non-pardon, puis d'entraîner des chicanes, puis de persévérer dans ces chicanes-là, puis ça, ça fait pas partie du Seigneur. Le Seigneur veut pas qu'on reste dans des états de non-pardon, puis de rancune, puis de guerre avec les autres. Quand on a un problème, il veut qu'on pardonne. Faut être capable de pardonner. Jésus, dans la prière du Notre Père, il nous l'a expliqué, il dit, quand on va m'en parler à Dieu dans la prière, ça dit, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Fait que c'est, pour un chrétien, pardonner, ça devrait être naturel. Pourquoi? Parce qu'on le sait qu'on a besoin du pardon de Dieu. Régulièrement, on en fait encore des choses qui déplaisent à Dieu, puis il faut remettre ça au Seigneur, puis demander pardon. On aime ça que Dieu nous pardonne. Mais il faut être capable, nous aussi, de pardonner à notre prochain. Si on garde des rancunes, de l'amertume, puis ceux qui ne savent pas c'est quoi de l'amertume, c'est le sentiment qu'on peut avoir agressif, un sentiment amer qu'on a en dedans de nous quand on pense à une personne qui nous a fait de quoi de mal. Qui nous a blessés par une parole, elle nous a fait une passe-passe qu'on n'a pas aimé, puis que là, on a de l'amertume quand on pense à elle, puis on est porté à parler mal contre elle, puis il sort de la méchanceté de notre bouche, puis on voudrait peut-être même se revenger. Puis cette blessure-là, elle reste là dans le fond de notre intérieur, dans notre âme. Puis ça, quand on a ça, il faut s'empresser de faire une prière à Dieu, puis de demander pardon, premièrement, d'avoir eu de l'amertume, puis d'avoir gardé cette amertume. On demande pardon, puis on demande à Dieu de remettre la dette. On dit à Dieu qu'on pardonne l'autre personne. Mettons, si vous avez souffert beaucoup quand vous étiez jeune, puis que vous avez encore de la rancune contre vos parents, mais il faut que vous la fassiez, cette prière-là, de demander pardon à Dieu pour d'avoir eu cette rancune-là. Faut demander à Dieu de pardonner celui qui nous a offensés. Faut demander à Dieu faut dire à Dieu qu'on y tient plus rancœur contre la personne, on lui remet sa dette. À nous deux plus rien, même si ça nous fait encore mal, faut dire à Dieu, j'y remets sa dette, je veux pas qu'elle soit punie pour ça, je veux qu'elle soit pardonnée, puis je te demande de la bénir, Seigneur, puis je te demande de guérir, d'enlever mon cœur qui est brisé, de le guérir, d'enlever cette amertume-là, pour que je puisse regarder cette personne-là avec un vrai sourire, puis de l'aimer. Voyez-vous? Mais ça, là, ça, c'est de l'amertume. Des fois, ça tourne en rancune qu'on traîne ça, puis qu'on se revanche, puis ça peut être de la jalousie, toutes sortes de méchanceté qui est dans notre cœur. Faut que ça disparaisse pour être capable d'aimer tout le monde. Vous ferez le point ce soir, quand vous êtes en prière avec le Seigneur. Soyez francs, puis est-ce que vous ressentez que vous avez de l'amertume ou de l'agressivité ou de la rancune envers quelqu'un? Peu importe qui ce que c'est, même si la personne est morte ou est vivante, avez-vous encore quelque chose dans le fond de votre cœur? Si oui, faites ce prière-là pour vous débarrasser de cela. Dieu peut vous guérir puis enlever ça instantanément. Quand vous allez faire la prière que je viens de vous mentionner, demandez pardon d'avoir eu la rancune, vous décidez de pardonner à l'autre, puis vous dites au Seigneur de la pardonner, puis vous y remettez sa dette. Elle vous doit plus rien. Puis dites au Seigneur de la bénir, cette personne-là. Mais si elle est morte, c'est sûr qu'elle est trop tard pour être bénie, mais les celles qui sont vivantes, puis vous allez voir, votre amertume va disparaître, parce que c'est Dieu qui va l'enlever. Ça m'arrive de temps en temps de vivre ça, puis je le remets au Seigneur, puis ça part. Seigneur, il enlève l'amertume. Tu peux vivre comme libre. Fait qu'après ça, tu vas être capable de regarder la personne, puis de l'aimer, puis de t'accrocheras pas. Mais quand t'accumules, ça l'augmente. Puis là, des fois, t'as des trop-pleins, t'exploses. Puis là, c'est là qu'il peut avoir de la colère, il peut avoir toutes sortes de choses. Fait que là, il faut apprendre qu'on doit pas avoir rien contre aucune personne, là. Que ce soit un pauvre, un riche, un parent ou un ennemi, faut pas qu'on ait rien. Quand Jésus nous demande d'aimer notre ennemi, ben tu peux avoir des ennemis, puis ça peut que t'es tout à l'envers, puis t'es pas capable de l'aimer, mais il faut que tu sois capable. Puis ça dit, aime ton prochain comme toi-même. Puis ça dit de pardonner à nos ennemis, puis de les bénir, puis de prier pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Comment est-ce qu'on peut arriver à être comme ça? Faut que tu sois rempli de l'amour de Dieu. Comment ça se fait que j'ai pas encore l'amour de Dieu pleinement dans ma vie? Parce que j'ai peut-être encore de l'amertume. Faut faire le ménage. Faut faire sortir ça. Puis après ça, on va être capable de les aimer comme qu'on est supposé. Puis on va pardonner facilement. Puis là, Dieu va nous pardonner. Parce que dans la prière du Notre Père, juste après la prière, le verset suivant, ça dit, si, c'est Jésus qui parle, vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Donc, on veut être pardonné. Donc, faut apprendre à pardonner aux autres. Je veux pas le savoir qui a de quoi contre quelqu'un, mais si vous le sentez, que vous avez quelque chose, des choses qu'ont une ou plusieurs personnes, faites le ménage pour que vous soyez capable de les aimer comme Jésus les aime. Amen. Ces versets-là, quand on parle d'aimer Dieu de tout ton cœur, de son âme, puis d'aimer son prochain comme soi-même, c'est le résumé de tous les 10 commandements, c'est le mode de vie des chrétiens. Ça résume notre mode de vie. Tout ce qu'on vit devra être fait par l'amour, dans l'amour, pour l'amour, pour que Dieu soit glorifié dans tout ça. Lui, Jacques, qui amplifie la gravité des gens qui respectent pas les gens pauvres. Parce que là, il s'est servi de cet exemple-là pour enseigner cette chose-là. Dans Jacques 2, le verset 9, dans les versets qu'on a lus au début, il nous a dit, « Si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, puis vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. » Fait que là, il dit, « Ouais, mais j'ai pas fait l'adultère. Ah, ben j'ai pas fait de vol. » T'as pas fait de vol, t'as pas fait d'adultère, mais le résumé de la loi était, il fallait que tu l'aimes, ton prochain. Fait que si tu fais exception de quelqu'un, puis t'as haï quelqu'un dans ta vie, mais il faut que tu règles ça parce que t'es en train de pécher. T'es en train de passer à côté du vrai mode de vie d'un chrétien. Un mode de vie d'un chrétien, c'est l'amour. Lorsqu'on transgresse un commandement, nous désobéissons à celui qui a donné tous les commandements. Qui les a donné les commandements? C'est Dieu. C'est les commandements de Dieu. Fait que c'est ça que Jacques nous explique dans le chapitre 2, les versets 10 et 11. Il dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tout. En effet, celui qui a dit, « Tu commettras point d'adultère », a aussi dit, « tu ne tueras point. » Or, si tu commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. C'est pour ça qu'il nous dit qu'on ne doit pas avoir d'acception de personne, parce que là, tu es en train de commettre un péché contre le commandement de s'aimer les uns les autres. C'est ça qui est le résumé. C'est Jésus en a parlé, Paul en a parlé, puis Jacques aussi en a parlé. On doit apprendre, frères et sœurs. Je sais que des fois, c'est pas facile d'aimer quelqu'un qui nous fait souffrir, mais Jésus, quand il était à sa croix, puis il venait de souffrir quelque chose de rare, il est encore là en train de souffrir. Qu'est-ce qu'il a dit à son père dans une prière? Pardonnez-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. C'est ça. Jésus, même en train de souffrir, il les a pardonnés. Il a prié son Père pour eux, que Dieu les pardonne. C'est ce que je vous disais tantôt. Quand tu as de l'amertume dans ton cœur, tu demandes pardon pour toi de l'avoir eu, puis tu demandes à Dieu de le pardonner. Tu lui dis, je lui remets le dette. Je veux pas qu'il soit jugé pour ça. Je veux pas qu'il soit puni pour ça. Je veux que Dieu les bénisse. C'est pour ça qu'il nous dit de prier pour nos ennemis. Les conséquences sont graves pour celui qui se repent pas lorsqu'il transgresse les commandements. On voit aussi dans Jean, dans l'épître de Jean, puis on va en reparler un peu aussi dans l'histoire des faux prophètes le dimanche. Dans 1 Jean 2,4, ça dit « Celui qui dit « Je l'ai connu », il dit qu'il a connu Dieu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, puis la vérité n'est pas en lui. » Fait que tu dis, nous disons qu'on le connaît, Dieu. Mais si je dis « Je connais Dieu », puis je ne mets pas en pratique les commandements, là, je me mets à voler, je me mets à mentir, je me mets à convoiter, je me mets à faire adultère, je me mets à faire des exceptions de personnes, puis à pas aimer mon prochain comme moi-même. Je dis que j'aime Dieu, mais en réalité, je suis un menteur. Parce que si tu aimerais vraiment Dieu, tu voudrais obéir à ce qu'il t'enseigne. Tu voudrais marcher dans ses voies. Tu voudrais même, si tu l'as pas cet amour-là, lui demander de l'amour pour pouvoir aimer ton ennemi. Puis si tu as de l'amertume, tu vas lui demander de l'enlever pour que tu arrives à mettre en pratique. Ça arrive des accrochages dans notre vie, qu'on va vivre des petits combats, qu'on rencontre quelqu'un puis il nous a vraiment blessés. Mais aussitôt qu'on y repense, faut remettre ça au Seigneur. Si on veut mettre en pratique la parole, si on dit qu'on connaît Dieu, mais si tu connais Dieu, tu vas avoir un cœur à vouloir accomplir la loi royale d'aimer ton prochain comme toi-même. Même si tu es blessé, faut que tu arrives à y pardonner, à prier pour lui, pour t'en débarrasser de ça. Lorsque nous gardons ses commandements, cela nous permet de demeurer en communion avec lui. Dans 1 Jean 3,24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, puis Dieu en lui. On se demande comment je vais faire pour rester en contact avec Dieu, mais garde ses commandements, mets en pratique ses commandements. Puis si tu t'aperçois que tu en as transgressé un, demande pardon tout de suite, règle ça là. Quand tu te mets à jour comme ça, tu demeures en Dieu, puis Dieu demeure en toi. C'est lorsque quelqu'un pêche volontairement, puis qu'il met pas en pratique les commandements, puis c'est comme si ça y est rendu un point tellement dur que il est méchant avec les autres, puis il a de la rancune envers les autres, puis de l'amertume, puis il fait de la méchanceté, puis il transgresse les commandements, même s'il se dit qu'il est chrétien, mais la vérité n'est pas en lui, c'est un menteur. Parce que être chrétien, c'est un mode de vie, c'est une communion avec Dieu, dans l'obéissance à ses commandements, de rester en contact. Puis si tu tombes, tu demandes pardon, tu te relèves, tu gardes le contact. Mais pécher volontairement puis pas vouloir changer démontre que tu es un faux. Tu marches dans les ténèbres. Je vais en parler un peu plus dimanche. C'est dans des points de discernement pour discerner ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. La loi royale que Jacques dit, la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis, il y a un autre verset qui nous dit la loi de la liberté. Puis, un autre verset qui dit la loi de l'esprit et vie. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs mots qui parlent de loi dans le Nouveau Testament. La loi royale, la loi de la liberté, la loi de l'esprit de vie. Ces trois lois-là, ça revient à la même affaire, là, vous allez le voir. Ils sont le nouveau régime que nous sommes intégrés en Jésus-Christ. Puis ça, c'est en même temps un mode de vie, mais en même temps, c'est la puissance de Dieu qui va agir à travers de nous pour nous amener à vivre dans cela. Vous allez comprendre quand vous allez entendre les versets. Dans Romains 8,2, Paul y a expliqué, En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce qui arrive, c'est que quand avant d'être chrétien, on marchait dans nos propres forces. On marchait avec nos capacités. Puis là, on essayait de mettre en pratique, puis on essayait, mais on n'essayait pas bien de mettre en pratique. On profitait de toutes les occasions, de toutes les occasions qui se présentaient à nous autres qui faisaient notre affaire. Vrai ou faux? Puis on devenait esclave de ces affaires-là, c'est pas long. Si on souhaite pratiquer la sexualité comme c'était de pas faire l'adultère, mais il y en a qui n'ont aucun problème, pratiquent la sexualité sans être mariés, puis ils sont dans le péché, mais ça ne le dérange plus. Et maintenant, un gars qui fraude ou qui vole, ça ne le dérange plus. Puis tu deviens comme des fois pogné dans un pattern, tu n'es plus capable d'en sortir. Ou que ça soit de convoiter, puis de t'es jamais rassasié, ou que ça soit de mentir. Il y en a qui mentent, puis ça ne le dérange plus de mentir. Ils sont pognés dans leur menterie, puis ils sont esclaves de leur menterie. Mais ça, c'était la loi du péché. La Bible, elle nous en parle dans d'autres passages. La loi du péché, c'est une loi qui existe, dans une loi spirituelle qui fait que quand tu... La cause que la loi de Moïse a été donnée, nous, quand on prend conscience de cette loi-là, mais on se rend compte qu'on est pécheur, mais on se rend compte aussi qu'on est esclave, puis on ne s'en sort pas par nous-mêmes. On reste toujours pogné dans le péché. Il fallait que le Seigneur, non seulement il meure sur la croix pour pardonner nos péchés, mais il nous a donné, par le Saint-Esprit, quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu nais de nouveau, il te donne de rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle. La loi de l'esprit de vie. Cette loi de l'esprit de vie-là, c'est quelque chose que tu vas vivre quand tu es chrétien, puis quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu rentres là-dedans. Cette loi de l'esprit de vie, produit par le Saint-Esprit en toi, va te libérer de la loi du péché. La loi du péché, elle t'amenait toujours à vouloir continuer dans le péché. Tandis que quand tu es dans le Saint-Esprit, là, tu es rendu libéré de cette loi-là, puis là, tu es rendu que tu te sens de plus en plus libre, puis tu n'as plus le goût de pratiquer les péchés. Tu t'en sors de tes péchés. Il t'affranchit de tes péchés. Autant que tu pouvais être pogné avant, mais là, le Saint-Esprit, le fait que tu confesses tes fautes, ça, il te libère. Il y a une nouvelle loi qui agit sur toi et qui te rend libre. C'est ça que Jésus avait enseigné à ceux qui se disaient, qui croyaient en lui. Jésus leur a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. » Puis c'est quoi cette vérité-là qui nous affranchit, qui nous rend libre du péché? C'est la loi de l'Esprit-Vie, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Fait que quand tu es en Jésus, tu es rendu dans une nouvelle dimension pour que tu atteignes la liberté. Tu as une possibilité de devenir libre de tes péchés. Fait que c'est une bonne nouvelle, parce que ça, je vous l'annonce, si vous ne le saviez pas, si vous êtes esclave de péché, vous pouvez être libre par le Saint-Esprit. Vous avez juste à confesser vos péchés à Dieu, puis le Saint-Esprit va faire un œuvre en vous pour vous en délivrer, pour que ça sorte de votre vie. Croyez à ces choses, c'est la loi de l'esprit de vie. Un autre verset, la loi de la liberté, nous appelle et nous affranchit du péché, donc nous désirons plus désobéir à Dieu. Notre désir est plutôt de plus en plus obéissant, de plus en plus proche de Dieu, de plus en plus être rempli de lui, de plus en plus à vivre ce qu'il nous demande. Puis il nous donne la force pour y arriver. C'est ce que Jacques nous dit dans Jacques 2:12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Il veut nous faire comprendre quelque chose là-dedans. Quand tu es chrétien, tu peux devenir libre de tes péchés. Cette loi de liberté-là, c'était la loi de l'esprit de vie. Loi de l'esprit de vie, c'est ça. Quand tu rentres dans cette dimension-là, parce que tu as donné ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit rentre en toi, tu commences à être changé, puis à être transformé, puis de devenir de plus en plus comme Jésus. C'est une loi de liberté. Quand tu vas vivre les commandements, quand tu vas vouloir mettre en pratique les commandements, une fois que tu es chrétien, ton cœur est plus « Oh, faut que je force pour regarder comment... » Non, tu vas réaliser que là, le Saint-Esprit te donne de plus en plus de facilité, puis il te libère de plus en plus de tout ce que tu pouvais convoiter avant. Fait qu'en Jésus, tu es supposé d'arriver à aimer ton prochain bien plus facilement qu'avant d'être chrétien. Avant d'être chrétien, c'était impossible. Pasteur, que tu as donné ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit te rend libre de tout ce qui te bloque puis qui te l'empêche, puis tu rentres dans la dimension d'aimer encore bien plus facilement. Le Saint-Esprit va répandre ton cœur, va répandre dans ton cœur son amour pour Dieu et pour ton prochain. Fait que ça va être de plus en plus facile de mettre en pratique la loi royale qui dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Poussés par le Saint-Esprit, les enfants de Dieu apprennent l'amour et aiment les gens qui les entourent. Ça, on est tous supposés de rentrer là-dedans, à moins qu'il y aurait des blocages en nous, soit qu'on n'a pas réalisé qu'il fallait atteindre ce but-là, ou soit qu'on a on garde l'amertume, puis de la rancune, puis de la méchanceté, parce qu'on ne l'a pas encore confessé. Mais si on le confesserait, il nous en libérera, on arrivera tout facilement à vivre, de s'aimer les uns les autres, puis d'accomplir cela. Jacques 2,13, dans les textes qu'on vient de lire, il dit, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. » Si une personne s'entête à pas vouloir vivre d'aimer son prochain comme soi-même, là, ça veut dire que elle, cette personne-là, le jugement, il est sans miséricorde pour celui qui fait pas miséricorde. Si tu n'as pas l'intention de pardonner, tu veux pas changer, puis tu veux garder tes rancunes, ta méchanceté, tu es en train de désobéir au commandement du Seigneur. Puis le jugement, il est sans miséricorde pour ceux qui font pas miséricorde. Tandis que le contraire, quand tu as donné ta vie au Seigneur, puis là, le Saint-Esprit te libère de tous tes péchés, puis tu avais de la rancune, puis ça, tu confesses ça à Dieu, tu t'en libères ça avec. C'est de plus en plus facile d'aimer ton prochain, puis ça dit, la miséricorde triomphe du jugement. Tu vas arriver dans un mode de vie de l'amour, puis le Seigneur va t'aimer parce que t'aimes. C'est ça qui s'attendait de nous, qu'on puisse aimer. C'est lui qui va le produire en nous. Si tu le veux, ça va se faire facilement. Il s'agit que tu le fasses à mesure de régler tes petits bobos qui traînent, puis que tu veuilles devenir comme Jésus. Tu veuilles marcher dans ses commandements. Le Seigneur, il appelle tous ses disciples à être compatissants envers leurs prochains, comme le Seigneur lui-même, il a eu pitié de nous. Parce qu'on n'était pas aimable quand on est venu à Jésus. On avait plein de péchés, plein d'affaires qui étaient laids aux yeux de Dieu. Mais Dieu il avait pitié de nous. Il a tout fait pour qu'on puisse être pardonné, ça veut dire lavé, purifié, puis qu'on ait aussi la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir être libéré, délivré, transformé. On est venu tout sale, on puait. Il nous a pris par le chignon de même, puis là, il nous a lavé dans le sang de Jésus. Là, après ça, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné des vêtements neufs. Puis là, on marche avec le Seigneur. Il a eu pitié de nous, puis il nous demande à notre tour de s'aimer les uns les autres, puis d'avoir pitié des autres qui nous entourent. Si quelqu'un fait une exception de personne, il démontre qu'il n'a rien compris de l'amour de Dieu, puis il retombe sur le jugement. C'est ça que Jacques essaye de nous expliquer. Ça démontre qu'on n'a pas compris qu'il fallait marcher dans l'amour, puis tu commences à mépriser personne, puis à les maltraiter, mais tu tombes sur le jugement, tu deviens coupable de la loi. Voyez-vous, on est tous à gagner de marcher dans l'amour. Dans le dernier verset que je vous lis encore de Jacques, « Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, puis vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Dieu veut qu'on apprenne à aimer, puis qu'on y aille chercher son amour pour être capable de vivre cet amour-là les uns avec les autres. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous explique de s'aimer les uns les autres. Puis je te remercie aussi pour le guide que tu nous montres, ta parole, tes commandements. Tout ça, c'est là, puis tu nous as donné ton Saint-Esprit pour qu'on soit capable d'y vivre. Seigneur, merci de nous amener à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Merci de cet amour que tu répands dans nos cœurs. Et je te demande, Seigneur, pour ceux qui ont de la misère dans leur cœur, qui ont de la rancune, puis de la haine, puis, ou de la méchanceté, ou toutes sortes de blessures, je te demande de les aider à ce qu'ils puissent tout te remettre. Confesser ces choses, remettre la dette, puis de demander la bénédiction. Merci, Seigneur, de guérir les cœurs brisés. On remet nos ventres tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.